Non, mais alors, excusez-moi, parce que là, en plus, il y a des photos qui n'ont rien à voir. Ici, c'est une dalle chaud-chanvre, mais on voit très mal.
Aussi, qui ont un peu, parce qu'on parlait d'humidité. Anthony parlait d'humidité, donc.
Oui, ah oui, alors ça en fait, ça c'est avant de poser un quelconque isolant en sol, en terre-plein humide, il vaut mieux d'abord faire de toute façon ce qu'on appelle un hérisson, en mettant, là en l'occurrence c'est tellement humide, c'est carrément du galet. Et puis en plus il a fallu drainer à l'intérieur parce que le drainage extérieur ne suffisait pas. Et donc en plus ça ventile le fameux hérisson. Parce que là, on a une première couche, mais tous les tuyaux vont être complètement dans l'épaisseur de ces cailloux. Et ensuite, sera coulée une dalle qui peut être chaud-chanvre, avec un simple nantissé, surtout pas un polyane, pour éviter que toute la laitance de la chaux parte dans les cailloux. Enfin, voilà. Et puis, bon, comme ça, vous êtes d'une pierre deux coups, votre dalle, elle est isolée. Et puis, vous avez une dalle, vous pouvez mettre toutes les tomates du monde que vous voulez. Et, voilà. Et vous n'avez pas besoin de la ferrailler, surtout pas, parce que là, la chaux, ça ne supporterait pas. Ça vous boufferait la ferraille d'abord. Et puis, de toute façon, là, il y a ce qui maintient la cohérence de la dalle, c'est toute ce chanvre, ou la paille. On avait mis aussi de la paille. En fait.
Mais vous n'avez pas besoin de mettre de polyane alors?
Ah, surtout pas. De toute façon, avec toute dalle à la chaux dans du bâti ancien, même s'il n'y a pas d'isolant dedans, on pourra mettre par exemple des fibres de verre si on a peur qu'il n'y ait pas de cohésion, mais normalement il n'y en aurait même pas besoin. C'est pas comme, ça ne réagit pas comme le ciment, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais surtout pas de polyane, parce que sinon toute l'humidité serait retenue. Dans les murs, puisqu'elle ne pourrait pas s'évaporer par le sol. Et alors là, c'est encore plus catastrophique pour la dégradation des murs. On rajoute toute cette humidité dans du sol, puisque de toute façon, nos maisons n'ont pas de coupure de capillarité dans leur fondation. Donc du coup, on a forcément de l'eau qui remonte 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, dans les murs, et il faut qu'elle puisse s'évaporer.
Est-ce qu'on peut faire un système de chauffage au sol?
Oui. Alors c'est vrai qu'avant, les vendeurs de chanvre n'osaient pas, mais maintenant je vois qu'ils s'en font plein.
Et au-dessus justement de ce chanvre, qu'est-ce qu'on met comme chat?
Alors après, il faut continuer dans la même logique et faire une chape à la chaux. Hein. Il faut un enrobage à la chaux. Si on met de la tomate, c'est sûr que si vous partez sur du carrelage et de la céramique, alors là, peut-être passer plutôt avec des dalles de liège, plutôt que du polystyrène sous votre plancher chauffant. Et puis une dalle, enfin une chape liquide, voilà, enfin, c'est...
Oui, on n'a pas, justement...
Parce que les dalles, enfin, le carrelage, ça ne respire pas.
Oui, d'accord. Non, mais entre justement le système de conduite d'eau, oui. On peut le mettre directement posé sur le chaud, la dalle en chaud, de toute façon. Il n'y a rien à mettre entre les deux, on peut mettre et après directement refaire ça.
Oui, voilà. Il y en a qui le font, hein, en tout cas. Enfin, moi, je n'ai jamais fait sur des chantiers. Bon, là, on est sur les enduits chaud-chanvre, hein, voilà, premier gautier, chaud-chanvre, etc. Moi, je l'utilise beaucoup dans le bâti ancien, parce que, en plus, ça permet de faire des finitions assez sympas, avec des couleurs, des ocres colorées, etc. Enfin, voilà. Et pourquoi je l'utilise beaucoup aussi, c'est parce que, on garde l'inertie de son mur, tout en cassant la paroi froide, on garde la plastique du mur, alors qu'avec un isolant rigide, eh ben, on fait une boîte, et puis autant être dans un appartement parisien, et puis voilà. Voilà, il y a une certaine plastique qui est conservée comme ça. Enfin. Et puis une bonne odeur. Alors, en fait, on a d'abord fait un gopti.
Tu répéteras la question à chaque fois.
Oui, pardon. Excusez-moi, c'est vrai. Est-ce qu'on me demande, est-ce qu'on met directement l'enduit chauffant sur le mur de pierre? Je serais tentée de dire oui, mais c'est comme un enduit lambda. Il se fait en plusieurs couches. Il y a la couche d'accroche, ce qu'on appelle le gopti, où on jette de façon brutale. Et là, autant utiliser que de la chaux pure, ça ne sert à rien de dépenser du chanvre dans cette première couche. Surtout que ça sert aussi à boucher les trous qu'on peut avoir, les galeries qui ont été faites par, dans les murs de pierre par les noix ou autres. Parce que vous trouvez plein de noisettes comme ça, plein de coquilles de noix et tout. Puisque toutes nos maisons sont souvent montées à la terre. Donc, quand la terre se retire, etc., il y a souvent des galeries. Et donc, ça permet aussi de boucher un peu tout ça. On en rentre beaucoup, au dire des maçons. Ils disent oh, on en rentre. Enfin, bon, voilà. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle le corps d'enduit. Et donc, c'est là qu'on va faire notre enduit chaud. En général, on le fait en deux passes. Et en général, ça n'excède pas les 5 cm. Et puis après, on va faire
le... Chaque passe ou la totalité?
La totalité. Parce que après, si on voulait passer avec plus de centimètres, par exemple 10 cm, il faudrait blancher carrément. Il faudrait mettre une structure de bois, mettre des branches provisoires. Voilà. Après, on peut faire des finitions avec un chaulage, simplement, ou un lait de chaux, quoi, coloré.
Ça s'achète ou bien on le fabrique dans le...
Alors, vous verrez tout ça chez le négociant. Normalement, on peut acheter son chanvre d'une part et ses sacs de chaux d'autre part. Mais il y a des petits malins qui ont inventé les sacs prêts à l'emploi où tout est mélangé et qui lui vendent 10 fois plus cher. Voilà, vous pouvez tout trouver.
L'eau est avec?
Et l'eau va bientôt être avec, ouais. Non, là encore. Oui?
Sur le chauchant, ça s'en fera un point.
C'est un maçon qui vous parle, là, tout de suite.
Rémi Roubaud, délégué MBF de la Creuse,
voilà.
Une tour du Moulin, et qui cet après-midi va vous faire
une démonstration. Vous aurez une démonstration justement cet après-midi.
Voilà, on parlera du matériau un peu plus précisément.
Voilà.
Moi, je voulais juste faire un point là sur une histoire d'épaisseur et par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas chercher des épaisseurs trop importantes, sinon on a un risque d'apparition du point de rosée. Et c'est l'histoire de la fameuse traction capillaire dans le mur. Il faut que entre votre isolant et votre mur, il y ait continuité, parce que c'est exactement comme le sucre dans le café. Si votre sucre ne touche pas le café ne remonte pas dedans. S'il touche, à ce moment-là, le café remonte. Et bien c'est pareil, si votre isolant est en contact avec le mur, l'eau qui peut apparaître dans cet isolant par l'effet d'apparition du point de rosée, elle va partir dans le mur. Mais pour qu'elle parte, il faut que le chemin de l'eau il soit facilité. Donc s'il y a trop d'isolant, si vous avez trop d'épaisseur d'isolant, vous allez avoir trop d'humidité dans votre isolant et l'eau elle va avoir du mal à libérer dans le mur. Donc il faut en général, on considère qu'il ne faut pas dépasser 10 cm d'isolant sur le mur dans du bâti ancien.
Et ça, c'est les dernières recherches qui ont été faites par Jean-Pierre Oliva, justement, dont vous parlez, qui a fait énormément de... d'essais in situ et non pas en laboratoire.
Et l'isolant dont on parle, c'est le chauchant ou tous les types d'isolants?
Alors, c'est un peu tous les types d'isolants. Oui, même pour la laine de bois, par exemple, qu'on plaque contre un mur. Attention, on parle bien en mur. Hein. On ne parle pas en...
Isabelle, sur le sol.
Oui.
Sur la pouzzolane.
Oui, alors la pouzzolane, un super matériau aussi. Ben,
entre la pouzzolane et ta dalle de chanvre,
oui.
Tu mets quoi?
Alors moi, en général, je mets ce que j'appelle un non-tissé. C'est un espèce de textile qui va laisser passer l'eau, la vapeur d'eau, mais qui ne va pas être un plastique étanche.
Ça s'appelle comment?
Mais qui ne va pas laisser passer les petites particules. C'est un géotextile, ça s'appelle.
Oui.
Donc il y a un bidim. Oui, voilà, par exemple. Bon, mais ça, c'est toujours le chanvre. Hein. Hop, on peut aller plus vite. Ah non, on revient. Ouais. Voilà, donc là, vous avez un exemple de paroi qui a été mur, là, qui a été avec le fameux frein de vapeur. Et on met, j'ai cette photo simplement pour introduire le travail des électriciens, les électriciens qui vous vont compter leur travail, puisque là on était dans du bois, donc on a utilisé des gaines blindées. Enfin, et donc le tassotage qu'on met sur le frein de vapeur, il va servir non seulement à maintenir les plaques, effectivement, mais aussi de vide technique pour passer tout ce qui est électricité, etc. Et comme ça, on évite de percer ce fameux frein de vapeur, comme on peut trouver sur des chantiers vite faits, où il n'y a pas ce vide technique, justement, où on plaque directement et vas-y donc. Bon, là, on est sur un plancher fatigué qu'on a lambourdé pour rattraper le niveau. On a mis de la ouate de cellulose, un frein de vapeur qui est simplement du papier craft. Le parquet en châtaignier.